Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en 2023. Bonne année. Je suis heureux de vous voir nombreux, heureux de voir vos visages. Et puis, j'avais vraiment cette pensée de dire, mais waouh, le Seigneur me disait, mais c'est ta famille. Alors, je vous invite aussi à regarder à droite et à gauche, et regarder autour de vous, mais c'est votre famille. Bienvenue à la maison, c'est votre famille. Et ça veut dire, 2023, c'est aussi l'occasion de prendre soin des uns des autres encore un peu mieux. Est-ce qu'on peut switcher à la sono pour mon PowerPoint volontiers? Ayons en 2023 ce regard bienveillant les uns sur les autres, ce désir aussi de prendre soin les uns des autres. C'est tellement important. J'étais touché aussi par ces prières tout à l'heure de consécration, ce désir d'être saint, d'être mis à part. Et ça va très bien avec le message que j'aimerais vous apporter aujourd'hui. Donc, il a été mentionné que nous commençons demain, nous débuterons une semaine de jeûne et prière collectif. J'insiste sur le collectif parce que on pourrait le vivre tout seul dans son coin, mais c'est pas la même chose de le vivre ensemble. Donc c'est un temps à part dans lequel on veut aller chercher Dieu ensemble. On veut l'écouter, on veut le laisser nous toucher, nous transformer, le laisser aussi nous ressourcer. Et puis, je trouve extraordinaire de pouvoir commencer l'année comme ça. Je sais pas si on réalise qu'il y aura pas deux années 2023 comme il n'y a pas eu deux années 2022. Chaque journée est unique, chaque année est unique. Et puis c'est tellement fort pour dire, ok, c'est comment je vais vivre mon année 2023? Quel positionnement? Comment je vais entrer? Quelles sont mes... C'est vrai, c'est bonnes résolutions, ok, mais pas juste des bonnes résolutions. Et on veut plus que des bonnes résolutions. Et c'est des choses qu'on peut recevoir et vivre dans ces temps de présence de Dieu, de ces temps d'intimité, dans ces temps de jeûne et prière. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu une source naturelle. Alors celle-là, elle est peut-être photoshopée, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu une source naturelle? C'est assez chouette, hein. Nous on avait une en-dessus de notre village, là où j'habitais dans mon enfance. Puis mon papa aimait beaucoup aller voir cette source, maintenant il prend les petits-enfants avec. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'au milieu d'un champ, tac, il y a de l'eau qui sort. Vous pouvez aller aux sources de l'Arvenoge, hein, une bonne petite excursion aussi avec vos enfants ou petits-enfants, très sympa. C'est juste extraordinaire. Des fois, il n'y a plus d'eau en bas de la rivière. La rivière est sèche, le lit de la rivière est sec et on peut même remonter. Les enfants vont vraiment aimer sauter dans les cailloux, etc. D'un coup, on arrive là où il y a la source, puis là, il y a encore de l'eau. Et en fait, on est à l'origine de quelque chose quand on a une source. On est au début, puis on voit le lit de la rivière, peut-être qu'il y a de l'eau, peut-être qu'il n'y a pas. Mais on voit que c'est de là que part quelque chose. Il y a quelque chose de pur, il y a quelque chose un peu de miraculeux, cette eau qui jaillit au milieu de rien. Moi, je trouve ça tellement beau. Alors, dans cette semaine, on aimerait aller à la source. Et peut-être que la rivière est encore pleinement abondante dans ton cœur, mais peut-être qu'il y a des sécheresses. Puis l'idée, c'est d'aller, on va aller à la source ensemble. Parfois, pour aller à la source, il faut monter sur des hauteurs, justement, il faut aller loin pour trouver de l'eau, il faut aller à l'origine, il faut aller là où se forment les neiges éternelles pour trouver de l'eau, peut-être. Il faut peut-être creuser, hein, c'est une bonne méthode pour trouver de l'eau, il faut creuser. Peut-être qu'il va falloir creuser cette semaine. Peut-être qu'il va falloir être persévérant et ingénieux, comme on peut voir dans certains pays chauds, hein, ils arrivent à trouver de l'eau là où il n'y en a pas, avec des systèmes de condensation, récupérant la rosée, etc. Peut-être qu'il va falloir être aussi un petit peu ingénieux et persévérant. Mais c'est vraiment ça qui se passe dans les temps de jeûne. On n'attend pas juste quelques gouttes comme ça, d'eau qui font du bien, ou du fond de la vallée, on attend un petit peu quelques gouttes. Non, mais on va se mettre en route, on se met en chemin, on choisit, il y a un choix. On choisit d'aller, on monte à la montagne, on va à la source. On creuse la terre de notre cœur. On débouche ce que l'ennemi a peut-être bouché dans cette année 2022, afin que l'eau elle puisse de nouveau jaillir. Puis on persévère, on apprend, puis on cherche jusqu'à obtenir cette eau extraordinaire, cette eau fraîche. Vous êtes à une source, vous avez envie de vous baigner. même si elle est à quelques degrés, c'est tellement beau, on a envie de se mettre dedans, elle est fraîche. Alors j'aimerais donc vous inviter ce matin à partir à la recherche de cette source qui va vous ressourcer dans cette semaine et au travers donc du jeûne et de la prière. Donc le jeûne, c'est une arme puissante que nous sommes appelés à pratiquer régulièrement. Ce n'est pas juste dans les occasions extrêmes, ça peut, mais c'est quelque chose de naturel. Et Jésus en parlait naturellement, je ne vous refais pas tout un enseignement, mais vous souvenez qu'il a dit « lorsque tu pries, lorsque tu donnes », ou « lorsque tu donnes », il commence par la générosité, « lorsque tu donnes, lorsque tu pries », puis il a dit « lorsque tu jeûnes », en Matthieu 6. Donc c'est quelque chose qui était naturel, régulier, et que les chrétiens, bien avant nous, faisaient. Donc, c'est une arme puissante. Et je vais vous donner une petite définition. J'aime bien dire que c'est ma définition. Copyright, s'il vous plaît. Parce que la définition du jeûne, hein, c'est une privation de nourriture dans un but spirituel. Ça, c'est la définition. Okay? Mais je trouve que ça manque un peu quand même. Il faut un peu travailler ça, non? Alors, on va la lire ensemble. C'est une privation de nourriture exprimant le cri d'un cœur qui a désespérément faim et soif de Dieu et qui est prêt à renoncer pour un temps donné à ce qui est humainement vital afin d'être nourri spirituellement, afin de voir l'action précise de Jésus par le Saint-Esprit. Elle est bien cette définition, non? Bon. Oui, merci. Les heures de travail. Une privation exprimant le cri d'un cœur qui a désespérément faim et soif de Dieu. En fait, pour aller à la source, idéalement, il faudrait avoir soif. Puis il y a déjà un enjeu assez important ici. Avez-vous soif? As-tu soif? Alors, il m'a semblé que quelques-uns ont répondu dans la prière. Mais permettez-moi d'insister. Avez-vous soif? Et je remarque que souvent, on a tellement tout, on n'a plus besoin de Dieu. Ça va bien sans lui. Vous n'avez pas besoin de prier pour partir dans votre journée. Votre journée, elle se fait quand même. Ça se passe bien. Ce n'est pas vital. Est-ce qu'on a encore faim et soif? Et si peut-être on en est arrivé à ne plus avoir soif, et puis il n'y a aucun jugement avec ça, je pense que c'est une réalité. On est dans une société où on veut se passer de Dieu. On veut tout avoir. On veut être quelque part dépendant de rien, de personne. Ben peut-être que d'arrêter de nourrir notre corps pour écouter notre âme sera une bonne idée cette semaine. Parce qu'en fait, notre âme, elle est la soif. Notre âme, elle dit oui, j'ai faim et soif de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'illusion. C'est une illusion qu'on se donne à nous-mêmes, que tout va bien et qu'on n'a pas soif. Mais la réalité, c'est que notre être intérieur, il se dessèche. C'est un peu l'image de ce verre dans la pomme, vous connaissez, hein? Vous pouvez avoir une super pomme, vous dites « waouh ». Vous voulez que je la refasse? Là, il y a un verre, berk. Hein, mais des fois, la pomme, extérieurement, elle est magnifique. Donc, c'est ça. On peut être un peu desséché, même un peu pourri, de l'intérieur, osons les mots. Et puis, l'extérieur est bien. Donc, le jeûne va nous permettre de prendre soin de l'intérieur. De pssst, on va virer le verre qui est là, hein, et puis on va nourrir notre âme et notre esprit. Donc c'est dans le jeûne et la prière qu'on peut retrouver ce feu du premier amour. Est-ce que vous voulez ce feu du premier amour? C'est dans ce jeûne et de la prière qu'on peut faire le plein peut-être de cette huile, hein, que nos lampes soient pleines jusqu'au retour de Christ. Mais c'est dans ces moments-là que ça se vit. Alors je remarque aussi que ceux qui ont très soif font généralement face à un mur. Ceux qui aujourd'hui ont soif, c'est souvent ceux qui passent par l'épreuve, qui passent par la maladie, par exemple. Puis là, dans ces moments-là, on n'a plus rien d'autre et on s'attend à lui. On désire vraiment le voir à l'œuvre. Et puis c'est hyper juste. Le jeûne, c'est un cri vers Dieu pour des situations extrêmes, c'est vrai, aussi. Mais est-ce qu'on doit attendre d'être dans des situations extrêmes pour aller à la source? Non. Donc ce matin, j'aimerais bien vous assoiffer un peu, vous affamer, que vous repartiez de là en disant « Waouh, j'ai faim, j'aimerais plus, parce qu'il y a plus, il y a plus dans la présence de Dieu, il y a plus à aller chercher. Rachel priait et disait, mais je vais aller chercher ces cadeaux avec audace. Mais c'est vrai, il y a tellement plus. Des fois, on ne va pas chercher ce qu'il a pour nous. Il y a plus à vivre que notre petite vie chrétienne sans histoire. J'ai partagé dimanche dernier, 1er janvier, deux versets qui se trouvent dans Actes 18, puis je crois que c'est important de vous les redonner pour ceux qui n'étaient pas là, parce que je pense avoir reçu ces versets pour cette nouvelle année. Ces versets disent ceci, donc c'est une parole que Paul reçoit dans une vision où l'Éternel lui dit « N'aie pas peur, parle, ne te tais pas, car moi je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Je trouve extraordinaire et fort d'entrer dans l'année avec cette parole-là. « N'aie pas peur, ne crains pas, ne te tais pas. » Et je suis sûr que vous avez envie, en 2023, d'être utile dans les mains de Dieu. N'aie pas peur, ne te tais pas. Imaginez qu'en 2023, au travers de votre parole, de vos paroles, quelqu'un soit touché et donne sa vie à Jésus. Est-ce que ce ne serait pas extraordinaire? Est-ce que ce ne serait pas une source de joie? Est-ce que ce n'est pas ça que vous avez envie de vivre? Imaginez ça. C'est même, peut-être c'est un peu triste qu'on doive se l'imaginer. Mais on en est là, c'est pas grave. On se l'imagine, mais on a envie de le vivre, non? Il y a un peuple nombreux dans cette ville. Puis c'est avec cette hargne, ce feu-là, qu'on veut entrer dans ce temps de jeûne. Avec cette faim, cette soif d'être ressourcé dans sa présence, rempli du Saint-Esprit, pour qu'on ne s'imagine pas juste ces choses, mais qu'on les vive. Que votre bouche soit remplie, que vous puissiez vraiment exprimer ce feu qui est en vous. Que vous puissiez retrouver cette passion pour Jésus. Alors j'aimerais partager avec vous trois raisons d'aller à la source au travers du jeûne et la prière dans cette semaine. Il y en aurait beaucoup plus, j'ai dû en sélectionner. Je pense que je pourrais faire une liste de 15 ou 20, mais j'ai eu pitié de vous. Trois raisons d'aller à la source pour retrouver une vision claire, pour retrouver la puissance de l'esprit et de la parole, pour retrouver un cœur d'intercesseur. Alors on va regarder ça ensemble, le premier point pour retrouver une vision claire. Je crois que nous avons besoin en tant qu'Église et puis individuellement d'avoir une vision claire. Il y a même un verset qui dit que si le peuple n'a pas de vision, il se meurt. Il a besoin d'une vision pour avancer. Qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui, dans cette saison? Peut-être après avoir roulé tout 2022, vous avez votre pare-brise, il est un peu dégueu. Vous avez les mouches, les moustiques. À un moment donné, il faut laver le pare-brise. Alors, pour retrouver une vision claire, okay, c'est où que je dois aller? C'est quoi la saison? Il y a des saisons où on plante, il y a des saisons où on récolte, il y a des saisons où on prépare la terre. Il y a différentes saisons. Mais c'est quoi le chemin aujourd'hui? C'est quoi que tu désires? Donc il y a plein d'exemples bibliques où des hommes ont jeûné et ont reçu une vision, ont reçu des instructions précises pour eux-mêmes, pour aller, pour avoir une direction, mais pour aussi le peuple. Et c'est ce qu'on va voir premièrement avec Moïse, qui a fait un jeûne extrême. Et lui-même, c'est en jeu, il raconte ça dans Deutéronome au chapitre 9, versets 9 à 12. Où il dit, lorsque je suis monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, je suis resté là 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Donc un jeûne total. L'Éternel m'a donné les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. C'est au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel m'a donné les deux tables de pierre, les tables de l'Alliance. Alors moi, je suis convaincu que dans ce moment de feu, dans cette nuée de gloire de Dieu, il n'y a plus rien qui doit compter. Manger, vous oubliez. Je pense que c'était presque facile pour Moïse, parce que franchement, tu es dans la présence de Dieu extrême. Est-ce que vraiment tu penses à ton sandwich? Je crois pas. Il y avait d'autres préoccupations. Ça devait être, il était nourri, tu bouffes. d'être complètement transpercé, transformé. Tu n'as plus envie de manger, tu es nourri juste de la présence de Dieu. Hein, c'est ça qui s'est passé, moi, je crois. Mais ce que je trouve fort, c'est que c'est au bout de ces 40 jours qu'il a reçu les tables, les 10 commandements. Il ne les a pas reçus après 2 jours. Pourquoi 40 ? C'est une grande question. Mais il s'est passé des choses dans ces 40 jours. Il a formé Moïse, il l'a équipé. Il lui a donné beaucoup d'instructions aussi dans ces 40 jours pour la vie du peuple. Mais il a fallu du temps. Et il a reçu une direction, il a reçu quelque chose qui allait être, qui est encore aujourd'hui la base de nos lois morales. Alléluia. Mais nous, on aimerait tout de suite, non? On aimerait bien que quand on va dans la présence de Dieu, tout de suite on ait l'image, tout de suite on ait la pensée, tout de suite on ait la direction. Je suis navré de vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Ça prend du temps. Dieu a enlevé notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais comme pour les tables de la loi, il a besoin de temps pour y graver ses instructions avec son doigt. Ça se vit dans les temps d'intimité, ça se vit dans la mise à part, ça se vit dans le jeûne à la prière. Il n'a pas juste changé votre cœur et puis pff, tout imprimé, tout donné. C'est continuel. Il fait ce travail, il fait cette œuvre encore. Ça prend du temps. Mais il le fait. On reçoit dans la présence de Dieu des instructions claires, un chemin qui s'ouvre. D'autres exemples, l'exemple de Daniel, par exemple, il a eu une vision de, après 3 semaines de jeûne, un homme, un ange, est venu lui parler de ce qui allait arriver au peuple d'Israël qui était exilé. Et puis, il dira ceci dans Deutéronome 10, « Daniel, homme considéré comme précieux, donc c'est cet ange qui lui parle. Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Donc, vous savez que le jeûne, c'est en lien avec l'humiliation aussi dans la parole. Donc, quand il dit c'est humilié, c'est qu'il a choisi de se mettre à part. Il a choisi de jeûner. On sait qu'on parle du jeûne de Daniel. Hein. Donc, dès le premier jour de son jeûne, il a été entendu, mais ça ne s'est pas passé tout de suite. Il a dû attendre. Au bout de 3 semaines, il y a une présence surnaturelle et une réponse extraordinaire. Est-ce que vous n'avez pas envie d'entendre cette voix qui vous rassure et qui vous affirme, qui dit « mais vous êtes précieux, précieuse » Est-ce que vous n'avez pas envie, est-ce que vous n'avez pas besoin de comprendre aussi ce qui vient ? Comme Daniel, il avait besoin de discerner les temps. Et il a pu, il a reçu, il a compris. Mais il avait ce désir de comprendre. Il avait ce désir de se mettre à part pour saisir la pensée de Dieu. Et Dieu lui a fait grâce, Dieu lui a donné, Dieu a répondu. Un autre exemple encore dans le Nouveau Testament, cette fois, c'est la prophétesse Anne, qu'on trouve en Luc chapitre 2, les versets 36 à 37. Il est dit, il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Puis elle était restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Qu'est-ce qui va se passer avec cette femme ? Eh bien, elle sera là pile au moment où Jésus bébé va venir avec Joseph et Marie pour la présentation au temple. Et puis elle aura comme une révélation, dire « c'est lui, c'est le Messie ». Donc elle a passé un temps énorme dans le jeûne et la prière, mais c'est comme si elle est récompensée. Elle reçoit cette révélation extraordinaire qui lui permet de connaître mieux Dieu, qui permet de connaître peut-être avant tout le monde qui est ce Messie. Et puis après, le texte nous dit qu'elle est partie, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc imaginez, à 84 ans, elle part toute excitée, réjouie d'avoir pu connaître, d'avoir pu voir le Messie. Puis elle en parle partout. Il est là. Tu attends la délivrance. Il est là, le Messie. Est-ce que vous n'avez pas soif de ces révélations d'en haut? Vous n'avez pas soif de connaître plus de Christ, de connaître plus de Dieu? C'est dans ces moments d'intimité qu'on peut comprendre un peu plus qui est notre Dieu. On peut parler encore de Corneille, acte 10. C'est un non-juif hein, qui recherche Dieu d'un cœur sincère. Et puis alors qu'il jeûne depuis 3 jours, il reçoit la visite d'un ange qui lui dit d'aller vers Pierre. On connaît bien cette histoire. Hein, donc il reçoit une direction précise qui va influencer totalement sa vie, l'avenir de sa vie, de sa famille. Ils seront d'ailleurs les premiers païens, finalement, à recevoir le baptême de l'Esprit-Saint d'une manière vraiment extraordinaire. On peut prendre encore l'exemple de Paul, bien sûr, qui lui-même, quand il va rencontrer Jésus, hein, cette révélation d'en haut, ce Jésus qui se révèle sur le chemin de Damas, ben, il va être aveuglé, mais pendant 3 jours, il ne va pas manger ni boire. Et puis c'est là qu'il reçoit la vision d'Ananias. Il y aura un gars qui s'appelle Ananias qui va venir, qui va poser les mains sur mes yeux, puis qui va les ouvrir. C'est peut-être une vision pour le rassurer, pour lui dire qu'il y a quelque chose après, mais c'était aussi là, dans un moment où il n'a pas mangé. Il était averti de la suite. Puis bien sûr, on pourrait ajouter encore acte 13, où les responsables de l'église d'Antioche jeûnent et prient, puis reçoivent cette parole du Saint-Esprit, hein, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc une confirmation, une direction. Hein, c'était les docteurs, les prophètes de l'église qui priaient. Et puis là, une direction très claire. « Mettez-moi à part ces deux hommes. » Est-ce que ce n'est pas ça que nous avons aussi besoin? Alors je suis persuadé que durant cette semaine, Dieu souhaite nous parler, nous révéler des choses à son sujet, nous donner des images, nous donner des visions sur notre temps. Je crois que l'Église doit être en amont, doit être en avant. On ne doit pas être les derniers au courant de ce qui se passe dans la société, on devrait être en avant. On devrait avoir la créativité, on devrait avoir tout ce qui est disponible dans le royaume des cieux pour influencer aujourd'hui notre société. Est-ce qu'on n'a pas besoin de comprendre les temps dans lesquels nous vivons? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une direction, d'une personne peut-être à aller chercher ou à mettre à part? Que ce soit pour notre communauté ou bien pour nos propres vies, allons chercher ce que Dieu a en réserve durant cette semaine. Moi, je me réjouis de ça. Je me réjouis de recevoir. Ce n'est pas des choses que j'ai déjà prévues. C'est juste de recevoir vraiment, puis de se laisser toucher. Et puis, comme il était dit, mis à part, mais prêt à obéir. Hein, de pouvoir, ok, j'ai reçu ça, maintenant je peux en faire quelque chose. Il y a une direction qui se dégage, qui est claire. Ce n'est pas ce que j'ai calculé, ce n'est pas ce que j'ai prévu. Ça vient de Dieu. Vous êtes encore avec moi? Vous êtes hyper silencieux. Hein. Alors, deuxième raison, pour retrouver la puissance de l'esprit et de la parole. Et bien là, on va prendre l'exemple de Jésus, qui lui-même a jeûné à un moment important. C'était avant le commencement de son ministère, juste après son baptême d'eau. Et puis, on lit ensemble en Luc chapitre 4, les versets 1 à 4, et puis ensuite 13 et 15. Il est dit ceci, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. » J'imagine quand même. Hein. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, verset 14, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Alors Jésus entre dans ce désert rempli du Saint-Esprit et puis il fait face à l'ennemi. Pendant ou à la fin de ce temps de jeûne de 40 jours, hein, ce temps à part dans le désert, l'ennemi le tente avec la nourriture, comme il l'a fait avec Adam et Ève. Puis Jésus se défend avec l'arme de la parole. Hein. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. C'est vrai que cette parole, on la chante parfois, on la connaît, mais elle est extraordinaire. Et je crois qu'il y a une clé ici pour le jeûne. Le jeûne, c'est choisi de se nourrir aussi de la parole et non du pain. La nourriture, elle peut être une source de tentation, vous le savez aussi bien que moi. Et puis, il y a une lutte dans ces temps que nous choisissons de mettre à part pour Dieu. Il y a une lutte. Puis des fois, il y a plein de questions. Est-ce que vraiment je peux ne pas manger ? Certains vont dire, si vous êtes capable de renoncer à la nourriture, vous êtes capable de renoncer à tout. C'est vrai. Mais soyez assurés que la parole va vous nourrir. Va vous donner des armes pour lutter, pour fermer la bouche à l'ennemi, à Satan, qui essaiera de vous décourager puis de voler votre victoire. Parce que si vous allez rentrer dans ce temps de mise à part, c'est parce que vous avez un but, vous avez un désir, vous avez soif. Lui, il veut voler ça. Donc il va vous décourager, il va vous dire, mais non, tu n'arriveras pas. Mais croyez, luttez dans la parole. Laissez-vous toucher par la parole. Nourrissez-vous de cette parole dans cette semaine qui vient. Puis il est intéressant de noter que le texte nous dit que Jésus ressort de ce temps revêtu de puissance. Alors ça plaît à les charismatiques comme moi. Parce que quoi ? Il est entré rempli du Saint-Esprit dans le désert et il ressort revêtu de puissance. Il n'est plus seulement rempli, il est revêtu. Il marche dans la puissance. Et puis c'est à partir de là que son ministère commence. C'est à partir de là que sa réputation grandit. C'est à partir de là que les gens se rassemblent, écoutent. Il enseigne avec autorité. Il y a des signes, des prodiges et des miracles. Je suis convaincu et plus que convaincu qu'on a besoin de marcher dans la puissance, d'être renouvelé dans l'onction du Saint-Esprit pour faire les œuvres que Jésus a faites et même, selon sa promesse, d'en faire même de plus grandes. C'est toujours une question, on dit, ben, où sont les œuvres ? Ben, peut-être, où est la consécration ? Où est l'onction ? Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller chercher ça à la source ? Moi, j'ai envie, en tout cas, cette onction fraîche. J'ai beaucoup de personnes aussi qui témoignent que dans des moments de jeûne, ils ont pu exercer les dons spirituels qu'ils avaient reçus d'une manière extraordinaire. Puis on a eu des cours sur les dons, merci Jean-Jacques, ils comportaient du fruit, beaucoup avaient reçu des dons. Mais à un moment donné, il faut les exercer, il faut les mettre en pratique. Et ça, c'est en lien avec notre relation avec Dieu, c'est en lien avec notre mise à part. C'est pas juste... comme dire, la cerise sur le gâteau, faut déjà vivre le reste. Hein. Donc y a quelque chose à aller chercher là. Y a les dons spirituels qui vont s'exprimer dans cette semaine, je suis convaincu. On va recevoir cette onction qui est fraîche. Juste quelques exemples qui m'ont touché, quand je lisais d'un livre qui s'appelle « La puissance du jeûne et de la prière », je crois quelque chose comme ça. L'auteur prenait les exemples des grands orateurs hein, du siècle passé, Charles Finney, John Wesley, John Edwards, tous des John Edwards, John, extraordinaire, des hommes. Charles Finney, il rentrait dans une ville après avoir jeûné avec prière. Il raconte que lorsqu'il sentait plus vraiment l'onction, il prenait 3 jours de jeûne. Moi, je dis, des fois, je sens plus l'onction, puis j'attends. Non, lui, directement, ça va pas. Il prend du temps, il s'arrêtait, 3 jours de jeûne. Et quand il arrivait dans une ville où il allait bien sûr parler, évangéliser, etc., il entre dans la ville. Alors bien sûr, ce n'était pas des mégapoles, hein, mais il rentrait et les gens pleuraient. Il y avait quelque chose qui se dégageait de lui. Et les gens pleuraient déjà. Avant même qu'il ouvre la bouche, les gens pleuraient. Ils étaient déjà touchés par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Et puis John Edwards raconte qu'il a fait un prêche tellement puissant que les gens ont vu, comme ils ont tous eu la vision du sol qui s'ouvre sous leurs pieds, puis qu'ils ont vu l'enfer. Ils ont tous donné leur vie au Seigneur. Génial. Ça, c'est la prêche puissante. Hein. Mais John Wesley aussi, fondateur du méthodisme, il jeûnait et il demandait à tous ses collaborateurs de jeûner 2 jours par semaine. Alors bien sûr, on va dire, oh, bon, quand même, un peu religieux, 2 jours par semaine, c'est énorme. Bon, une pratique régulière. Mercredi, vendredi, il jeûnait 2 jours par semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre ? Sous sa prédication, il y a eu un réveil. Donc c'est ça qui a été le fondement du méthodisme, mais ça a touché les États-Unis. C'est juste extraordinaire. Et certains historiens vont dire que c'est même... par sa prédication et finalement sa ferveur, son jeûne et sa prière, que la Révolution française n'a pas atteint l'Angleterre. Donc, c'est des historiens qui le disent, même pas des chrétiens extraordinaires. voyez, donc il y a quelque chose de fou qui se passe quand on choisit de jeûner et de prier. Mais à un moment donné, on doit aussi le choisir et puis on doit le croire. Il l'a fait avec ces hommes-là, ok, c'est des grands noms, c'est des hommes mis à part, c'est spécial, mais je crois qu'il veut faire quelque chose avec chacun d'entre nous, là où nous sommes, à notre niveau peut-être, mais il y a quelque chose qui se passe lorsque nous jeûnons et que nous prions. Alors, l'onction est sur nous. Quelque chose nous dégageons la présence de Dieu. Nous reflétons Christ d'une manière extraordinaire. Et ça, c'est vraiment dans la mise à part que ça se joue. Troisièmement, ça va, je ne vous fais pas peur avec mes grands du siècle passé. Ça, je l'ai dit. Troisièmement, pour retrouver donc un cœur d'intercesseur. Alors, saint Augustin aurait dit, « Voulez-vous que votre prière vole vers Dieu, donnez-lui deux ailes, le jeûne et la prière. » C'est joli, c'est bien dit. Alors, le jeûne couplé à la prière, c'est une force importante. Parce que comme je l'ai dit dans ma définition, nous sommes en train de crier à Dieu notre faim et notre soif. Nous choisissons de le mettre avant tout. Et puis il y avait cette question ici là ce matin dans la louange, de le mettre en premier. Nous renonçons à manger. Je dis, c'est un besoin vital pour l'homme. Mais nous lui faisons confiance. Nous nous attendons à lui. Donc on peut jeûner pour des situations précises qui demandent une intervention de Dieu urgente. Alors la maladie, peut-être un accident qui est survenu. Puis là, c'est vraiment un temps d'intercession dans le jeûne. Où, mais il faut que Dieu, tu interviennes. Il faut un miracle. Quelque chose se passe maintenant. Des couples sur le point de divorcer, peut-être au milieu de nous. Il y a ça, mais à un moment donné, c'est urgent. C'est pas juste, ouais, bon, ben, 50% des couples, ils divorcent. Hein, c'est statistique. Non, non. Et est-ce qu'on se réveille? Et puis dit, mais non, on veut pas ça. On n'accepte pas cette situation. Puis là, on va chercher, on va intercéder dans la prière, dans le jeûne. C'est vrai, on a dit peut-être l'année, il y aura la maladie. On a dit plusieurs fois ça ce matin, puis ça m'a interpellé. Et je dis, mais oh, ok, la maladie, elle fait partie, la souffrance, elle fait partie de la vie sur Terre. Mais on veut pas juste être prêt à accueillir la maladie. On veut dire, non, stop, on veut pas la maladie. Non, on refuse. On va dans le jeûne à la prière pour cela. Amen. On veut intercéder pour les vies qui sont menacées, menacées peut-être par la guerre, menacées par la persécution, menacées par la faim. On a besoin de ce feu qui brûle et de retrouver ce feu qui brûle pour l'intercession. On veut peut-être jeûner et prier pour que Dieu se révèle à des personnes pour qui l'on prie depuis longtemps. Puis à un moment donné, on dit, mais Seigneur, maintenant il faut une intervention. On veut vraiment venir devant toi avec ces gens, on veut jeûner, on veut se priver de nourriture, on veut crier de tout notre cœur pour que tu te révèles à ces personnes que nous aimons et qui ne te connaissent pas. Amen. Donc on peut jeûner aussi dans un esprit de repentance pour une ville, pour une nation, bien sûr pour nos vies, c'est important. Et puis là, c'est le dernier exemple que je vais prendre, c'est l'exemple, encore une fois, de Moïse. Lui, il a battu tous les records, hein. Il a fait un deuxième jeûne de 40 jours après l'épisode du veau d'or. Donc il est redescendu avec les tables de la loi, puis vous savez, il y a le veau d'or, les idoles. Hein. Le peuple n'a rien trouvé de mieux à faire pendant que lui était dans la présence de Dieu, quelque chose d'extraordinaire, eux, ils ont fait une idole. Et puis là, il va remonter sur la montagne, et puis il dit ceci, « Je me suis prosterné devant l'Éternel, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. » Donc nous ne pouvons pas nous repentir pour quelqu'un d'autre, mais nous pouvons demander au Seigneur que sa grâce s'étende, que son amour se manifeste, que le mal ne triomphe pas, mais, comme il le dit dans sa parole, qu'il soit surmonté par le bien. Ça, on peut faire. Puis c'est aussi un choix, un positionnement où on reconnaît que ça ne va pas. On reconnaît que ces choses se sont vraiment passées. On demande pardon, mais on s'attend. On dit, mais Seigneur, oui, aie encore pitié. On sait, on l'a dit, il est loin la colère, riche en bonté. Jésus a tout accompli. Donc le pardon, il est disponible. Mais Seigneur, oui, fais grâce. Étends ta grâce. Fais connaître finalement ta grâce. Que ces hommes, ces femmes puissent se saisir de cette offre qui est là. Est-ce que vous avez des situations que vous avez envie de voir changer autour de vous? Est-ce qu'il y a des situations qui ont été bouleversées par votre prière en 2022? J'espère. Si ce n'est pas le cas, est-ce que peut-être, on pourrait se dire, en 2023, la prière de l'Église, la prière communautaire, le temps de jeûne, d'intercession, ensemble, portera du fruit. Et je vais quand même témoigner de ça, parce qu'il y a eu une situation en 2021 où moi j'entendais maladie, cancer un peu partout. J'en étais presque fatigué. Mais c'est pas possible, Seigneur, il se passe quoi? Et puis on a pris un temps de prière, d'intercession ensemble. Je sais pas si vous vous souvenez, en automne, j'ai dit, mais maintenant ça suffit, il faut qu'on se retrouve en famille. C'est bien de prier chacun pour soi, mais maintenant il faut qu'on prenne nos responsabilités en tant qu'église, en tant que famille, on se met ensemble. Et puis, parce que les gens le savent, oui, ils prient, oui, oui, j'ai entendu dire qu'effectivement, ouais, on dit, on se met ensemble, on se met à genoux devant Dieu, puis on intercède, on crie. Les rémissions ont été là. Les rémissions ont été là. Les personnes qui avaient le cancer sont en rémission aujourd'hui. Plusieurs ont dit, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Alors bien sûr, ce n'est pas juste la petite prière de l'escale. Je ne voudrais pas... c'est toute la gloire à Dieu. Mais à un moment donné, quand on se rassemble en église, en famille, qu'on prend nos responsabilités devant Dieu, quelque chose se passe. Et je pense qu'on a beaucoup laissé ça de côté, parce qu'on est trop occupé. Parce que finalement, on vit chacun notre temps de prière, et puis c'est très bien comme ça. Mais on perd la force, la puissance d'être ensemble pour le vivre. Alors je vous invite à le faire cette semaine. Je conclue. Bébé pleure, c'est le temps. Aller à la source, c'est aller à l'essentiel. C'est trouver les ressources, et puis ça va bien au-delà de nos propres besoins. C'est retrouver ce qui compte réellement, quelque part. C'est pour ça que je dis c'est l'essence, c'est aller au début, c'est aller vraiment, c'est revenir dans les vraies, les bonnes priorités. C'est retrouver une vie spirituelle qui est saine, qui est pleine d'enthousiasme. C'est retrouver une vie alimentée, et puis j'aime bien ce mot-là, une vie alimentée par la vie de Christ. Pas parce qu'on bouffe, et notre malbouffe, mais alimenté par le Christ. Il faut peut-être remettre, vous avez coupé le cordon avec vos parents, j'espère, c'est bien. Autrement, ça fait des problèmes de couple, couper le cordon. Mais avec Jésus, il a besoin de ce cordon, d'accord ? Il faut vous laisser alimenter par la vie de Christ. C'est aussi retrouver une direction claire, comme je l'ai dit, une marche dans la puissance de l'Esprit, une vie de prière, d'intercession renouvelée.